Chers auditeurs de Radio Cordelis, bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour 3 heures d'émission en direct. Comme à l'habitude, deux parties. Nous recevons tout d'abord Yves-Marie Berset pour sa contribution à cet ouvrage très important, La Nouvelle Histoire de France, aux éditions Passé Composé. Il va plus particulièrement nous parler naturellement des deux chapitres qu'il a écrits et qui sont consacrés au temps moderne. À 19h30, nous recevons Alain de Savigny, qui est historien, à l'occasion de la publication de son livre « Mel Bonis, un cœur en musique ». Ce livre, c'est l'histoire d'une compositrice du début du XXe siècle, oubliée, méconnue, qui va nous faire redécouvrir, et notamment à travers l'histoire, bien sûr, de sa vie très riche, mais aussi l'écoute d'un certain nombre de compositions qu'elle a réalisées. Et vous constaterez, chers auditeurs, que certaines de ces compositions sont très connues, alors que nous en ignorons complètement l'auteur. Je rappelle que Laurent est au standard, il sera très heureux de prendre tous vos messages, vos questions, vos suggestions que nous proposerons à nos invités. Vous pouvez le faire par téléphone, 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Avant de commencer notre émission, j'aimerais signaler un événement intéressant qu'on nous demande de proposer, je m'y rendrai d'ailleurs moi-même. Il s'agit d'un événement artistique qui a lieu à Versailles, juste à côté, donc des studios de Radio Courtoisie. C'est une exposition d'œuvres de peintres officiels de la marine, les fameux pommes. Ces œuvres qui ont été réalisées lors d'une escale, en quelque sorte, mais à Versailles, c'était à la fin de l'année 2025. Ils ont réalisé de cette escale de nombreuses peintures. Ils sont au total 9 peintres officiels de la marine qui présentent leurs œuvres. Et ça se trouve au Carré à la Farine, 70 bis rue de la Paroisse, donc à Versailles. Carré à la Farine, 70 bis rue de la Paroisse à Versailles. C'est du 20 avril 14h à 18h jusqu'au 26 avril, sachant que du 21 au 26 avril, c'est de 11h à 18h. Donc 9 peintres officiels de la marine qui vont présenter les œuvres qu'ils ont réalisées sur Versailles, sur la ville de Versailles, sur ces lieux patrimoniaux tels que la salle du jeu de paume, le potager du roi, la chapelle, magnifique chapelle d'ailleurs du lycée Hoche, le musée Lambinet, l'espace Richaud, l'église Notre-Dame, la cathédrale Saint-Louis, etc. Ainsi que donc le théâtre Montansier. Cela promet d'être particulièrement intéressant. Donc Carré à la Farine, rue de la Paroisse, 70 bis rue de la Paroisse à Versailles. Et donc du 20 avril au 26 avril. Voilà, chers auditeurs, ben nous abordons maintenant la première partie de cette émission. Comme Nous l'avons annoncé, nous consacrons plusieurs émissions à un certain nombre de chapitres de cette imposante et passionnante nouvelle Histoire de France, dirigée par Éric Anceau, et qui réunit, ce sont ces termes, les meilleurs spécialistes de des périodes présentées dans cet ouvrage. Ce livre comporte plusieurs parties principales, une partie histoire chronologique qui va de Vercingétorix aux Jeux Olympiques de 2024, mais aussi une partie consacrée aux politiques et spiritualité, une autre intitulée « Espace et société » et une dernière partie consacrée aux patrimoines et aux identités. Dimanche dernier, nous avions ainsi, avec Éric Anceau, abordé l'histoire de la Deuxième République. Ce soir, je vous propose, chers auditeurs, d'aborder deux thèmes d'une même époque, qui font deux chapitres de cette nouvelle Histoire de France. Tous ces deux thèmes sont consacrés au temps moderne. Et ils se trouvent dans les deuxième et troisième parties de l'ouvrage. Alors le premier chapitre, c'est le pouvoir royal au temps moderne. Et le deuxième, la société des temps modernes. Et nous avons le plaisir de recevoir l'auteur de ces deux chapitres, Yves-Marie Bercé. Yves-Marie Bercé, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, c'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir en direct dans le studio. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous ce soir. Je vous présente aux auditeurs, mais je pense qu'ils vous connaissent bien parce que vous
êtes... Ce n'est pas la première fois que je viens à Radio Courtoisie.
Non, ce n'est pas du tout la première fois, c'est ce que vous m'expliquiez en effet. Et donc, mais je vais quand même, c'est une tradition de présenter malgré tout.
Bien sûr.
Hein, nos invités. Alors, vous êtes archiviste paléographe, ancien membre de l'école française de Rome. Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, dont d'ailleurs vous avez été le président en 2021. Vous êtes un spécialiste des temps modernes, vous êtes aussi un spécialiste de l'histoire des révoltes paysannes. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, principalement d'ailleurs sur ces thèmes. J'en cite quelques-uns. Si vous le voulez bien, vous avez écrit croquant et nu-pieds les soulèvements paysans en France du XVIIe au XIXe siècle chez Gallimard, édition Gallimard et Julliard. Vous avez écrit l'histoire des croquants, étude des soulèvements populaires du XVIIe dans le sud-ouest de la France. Et ça, c'est aux éditions de Rose.
C'est ma thèse de doctorat d'État en deux énormes volumes.
Et ça, vous avez lu le prix de l'Académie française, le prix Gobert.
Le prix Gobert.
Ce qui est une belle distinction.
En 1976.
Et puis, vous avez écrit « Fêtes et révoltes, des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle » aux éditions Hachette. Vous avez écrit aussi encore d'autres ouvrages, d'autres nombreux ouvrages, mais je me limiterai à cela. Alors ce qui m'étonne, m'impressionne en quelque sorte dans votre curriculum, c'est votre intérêt justement pour les révoltes populaires, les révoltes paysannes, au temps moderne et un peu plus tard, puisque vous avez traité de ces sujets au 19e siècle. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux révoltes paysannes, plus particulièrement au point d'en être vraiment considéré comme le spécialiste?
Bien, c'est-à-dire que je suis engagé dans des recherches d'histoire sociale et que l'ancienne France et la civilisation occidentale, européenne, jusqu'à nos jours pratiquement, a été à grande dominante rurale, paysanne. Et par conséquent, étudier la paysannerie et sa place dans la société et dans l'économie et dans les institutions, je dirais que c'est la partie majeure de l'histoire. Pour un mot, si vous voulez, pour la conception que je me suis faite petit à petit de l'histoire. Pour moi, l'histoire, c'est la science du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas la répétition d'un récit national, ce n'est pas un agrément littéraire C'est en réalité un travail scientifique, puisque toute connaissance dépend du temps et dépend donc de l'histoire. Plutôt que le mot d'histoire, que je ne répudie pas, bien entendu, je prendrais aussi bien le terme anglo-saxon d'anthropologie historique. C'est-à-dire que c'est l'histoire et la science humaine par excellence. Faire de l'histoire, c'est s'engager dans le renouvellement d'une science. Ce n'est pas ajouter un récit littéraire parmi d'autres, ce n'est pas instrumentaliser le passé pour des problèmes politiques ou moraliser le passé, comme c'est une tendance qui est spontanée dans l'opinion, qui se renouvelle constamment. C'est la seule justification d'être historien, c'est de faire avancer les connaissances, de les renouveler.
Alors, j'étais très surpris de voir, en préface d'un de vos livres récents, Yves-Marie Berset, L'Ancien Régime, aux éditions Que sais-je. Et dans cet ouvrage, vous commencez de manière, je ne sais pas si c'est provocation, hein, pour nous réveiller, pour nous stimuler. En tout cas, vous commencez par écrire « L'Ancien Régime n'a pas existé ». Alors, pour un spécialiste comme de l'histoire des temps modernes, c'est quand même très fort. « L'Ancien Régime n'a pas existé ».
Oui, le mot « d'Ancien Régime » a été inventé en 1790.
C'est le mot. Oui.
Non, bien sûr qu'il n'a pas existé. Ce qu'on appelle « Ancien Régime », c'est la fiction, le type de gouvernement des dernières décennies du XVIIIe siècle en France. Et le fait même que c'est une affabulation, si vous voyez ce terme, d'Ancien Régime, c'est que les constituants ont affecté d'appeler le malheureux Louis XVI, Louis Capet, le représentant, le nom d'un petit roi du Xe siècle qui n'a, à travers presque 1000 ans d'histoire, son pouvoir n'avait aucun rapport avec le type d'institution, d'économie, de société que l'on voit s'achever se former à la fin du XVIIIe siècle. En réalité, la monarchie du XVe siècle, le gouvernement de la France sous Louis XIII, mettons, ont très peu de rapports entre elles. C'est une évolution constante. Et il y avait tout un tas de virtualités, de modèles politiques et institutionnels qui ont été avortés, si vous voulez, n'ont pas abouti. Et ce qu'on vous expose aujourd'hui dans les écoles, et depuis très longtemps, de tout temps à jamais, depuis 1790 ou depuis Michelet ou Lavis, c'est un récit national stéréotypé qui est faux, qui est profondément faux.
Alors je vous propose d'en arriver, si vous voulez bien, aux deux chapitres que vous avez écrits donc dans cette nouvelle Histoire de France aux éditions Passé Composé. Ces deux chapitres, c'est d'une part politique, dans la partie politique et spiritualité, donc c'est le pouvoir royal au temps moderne. Et puis le deuxième chapitre, vous le consacrez à la société justement des temps modernes. Vous décrivez la société de ces temps modernes et son évolution, notamment dans l'analyse des mœurs et du mariage. On apprend des tas de choses intéressantes sur le mariage. Vous remettez un certain nombre de préjugés, en quelque sorte, en cause, notamment sur l'âge des mariages. C'est particulièrement intéressant, et aussi sur le barème des dots. C'est très, très étonnant.
Oui.
Un barème des dots, d'ailleurs, nous en parlerons
oui,
au cours de ce chapitre.
C'est en ce sens que je revendique l'étiquette d'anthropologie historique. Je ne fais pas une récitation institutionnelle et politique. Quand je me suis engagé d'un début de mes études, je n'ai voulu surtout pas répéter, si vous voulez, les leçons classiques de l'historiographie. Alors, pour moi, sortais de l'école des chartes en 1959, pour moi, c'était rechercher qu'est-ce qu'il pouvait. Je croyais qu'il fallait compter, mesurer. Et j'ai été séduit à ce moment-là, je suis resté séduit par l'histoire de la population. Je suivais le séminaire de Goubert, et j'ai découvert les virtualités de la démographie historique. Compter le nombre des hommes, justement mesurer leur natalité, leur progression, leur reproduction, et s'apercevoir que l'histoire relève de la médecine, de la santé, de la biologie, et que ce n'est pas uniquement un discours de ministres et de souverains. que c'est véritablement une anthropologie voilà, millénaire. Et alors, à partir de ça, de l'histoire de la population, je suis passé aussi, bien évidemment, à l'histoire de la société et des représentations, de la structure de la société et des représentations de la société sur elle-même. Et en ce sens, je suivais le séminaire, en même temps que celui de Pierre Goubert, celui de Roland Mounier à la Sorbonne, qui étaient deux écoles historiques différentes, dont j'ai réuni, si on peut dire, les options, et je suis resté fidèle dans l'histoire des temps modernes en France et en Italie, puisque j'ai séjourné et je continue à travailler sur l'Italie. Je recherche une histoire des sociétés et des institutions et d'essayer de voir leur renouvellement de leurs connaissances dans les sciences historiques.
Alors comment faites-vous pour justement étudier ces thèmes? Vous utilisez des sources particulières?
Mais je cherche de nouvelles sources, je cherche oui. des points de vue qui n'ont pas été envisagés, des sujets qui n'ont pas été explorés. Mon dernier livre portait sur, qui est sorti il y a un an, sur les destins des enfants prodiges. Je n'étudiais pas les enfants prodiges pour eux-mêmes, mais des destins, ceux les prodiges ont avorté, si on peut dire, le malheur des enfants prodiges. Auparavant, j'avais étudié les dernières lettres, si vous voulez, avant leur mort, des condamnés ou des malheureux qui ont déplu au sens de l'histoire. Donc je cherche à chaque fois des renouvellements de sources et des angles de vue qui n'ont pas été envisagés jusque-là.
Où trouvez-vous vos sources sur les deux thèmes que vous venez d'évoquer?
Depuis tant de temps que je suis historien, je finis par avoir un peu de mémoire, et donc d'envisager des angles obscurs et des thèmes qui me semblent mériter d'exploration et surtout de renouvellement.
Alors, prenons le dernier livre donc, que vous avez publié, la maison d'édition, c'est...
Le Cerf.
Le Cerf. Je n'ai pas vu sur la fiche Wikipédia, comme quoi ce n'est pas parfait, hein, Wikipédia. Donc c'est le titre précis, c'est...
Les destins des enfants prodiges. 16e, 18e siècle.
Ah, donc on en reste au temps moderne.
Oui, bien sûr, parce que vous voyez, la notion d'enfant prodige s'achève, si on peut dire, avec Mozart. Il y a toujours des enfants prodiges, il y en a des milliers. Simplement, on ne s'extasie plus sur eux parce qu'ils font partie de la norme psychopédagogique dans le monde entier. Et le thème de l'enfant prodige apparaît à la suite, si vous voulez, d'histoires... des grands hommes de Plutarque, dans la lecture qu'en donne le Moyen-Âge, et il explose, je dirais, au XVIe siècle, avec des esprits comme Pic de la Mirandole, si vous voulez, l'omniscience. Et après, on recherche donc les exploits, qui sont presque des exploits de cirque, mais ces enfants prodiges qui est à un âge très précoce, manifeste des dons prodigieux que l'on méprise jusque-là dans l'enfance, vont être admirés, présentés, reçus dans les cours, écoutés, mais ils peuvent mourir à 16 ans de tuberculose ou ils peuvent ne pas attirer l'attention d'un souverain ou d'un homme riche et leur mémoire sera jamais perdue. Donc, j'ai appelé ce livre « Les destins des enfants prodiges ».
Alors, vous proposez dans ce livre donc, que vous publiez aux éditions du Cerf, « Destins des enfants prodiges 16-18e siècle », donc toujours les temps modernes, vous proposez toutes sortes de destins où il y a aussi bien des enfants prodigues qui sont morts encore enfants, quasiment, ou uniquement ceux qui ont eu un véritable destin, justement. Qui
non, justement, j'ai consacré une dizaine de pages à Mozart, mais c'est de troisième ou quatrième main. Il y a eu des auteurs qui ont su étudier dans la plus grande... et érudition et précision, de quoi est fait le génie de Mozart. Sa biographie, bien sûr, élémentaire, mais aussi les éléments qui constituent un génie à cette époque-là et pour l'éternité, dans le cas de Mozart. Mais je ne prétends pas amener un renouveau dans ce précis-là. Simplement, c'est le parangon. et qui peut servir justement en opposition avec ceux qui n'ont pas réussi ou dont le nom est totalement oublié.
Est-ce que le génie, l'enfant prodige, donc, qui est une sorte de génie ou de génie en puissance, dans les temps modernes, c'est une autre conception ? Ce sont
mais
d'autres caractéristiques que maintenant ?
Vous avez aujourd'hui des mathématiciens prodiges, des musiciens qui, à l'âge de 10 ans, font des, ou de 5 ans, font des merveilles extraordinaires. Et puis, après 25 ou 30 ans, ils vont peupler les instituts de recherche, ils vont être, avoir des bourses et... on aura oublié, non, on n'aura pas oublié leur nom, simplement, ils seront passés dans l'immense cohorte des génies de notre temps, mais ils n'auront plus ce statut spécifique, merveilleux qu'il avait, qui était enfermé en quelque sorte dans la conception du monde des 16e, 17e et 18e siècles.
Quel exemple donneriez-vous autre que Mozart que vous proposez justement dans ce livre sur le destin des enfants prodiges,
des mathématiciens, des musiciens, des peintres, bien sûr.
Comme peintre, par exemple, qui
eh bien, par exemple, Velázquez.
Ah oui.
Il est quand on débute peintre, il était d'une famille d'artistes, de peintres, mais qui n'avait pas d'illustration, mais qui, à l'âge de 10 ans, il est mis en apprentissage dans une famille. Et puis, petit à petit, c'est lui qui va se contenter non plus seulement des esquisses, des approches, mais des morceaux les plus extraordinaires, et au point que, à 18 ans, il épouse la fille de son maître. Et donc, si vous voulez, il a son génie, en quelque sorte, est consacré socialement. Il aurait pu rester enfoncé dans ce... que vous dire encore Artemisia Gentileschi.
C'est un génie pour vous ?
Oui, c'est un génie.
Elle est un peu contestée. Hein, sur, il y en a qui le considèrent physiquement comme un génie de la peinture.
Mais c'est-à-dire qu'elle a plus de difficultés en étant une femme.
Un peu surévaluée. Enfin, c'est, moi, je dis, ce sont des spécialistes qui disent ça, qu'elle est un peu surévaluée en réaction.
Oui, on peut dire ça. Simplement, oui. En l'âge le plus tendre, elle faisait des tableaux qui étonnaient son père, qui était lui-même un peintre bolognais célèbre. Et ensuite, il se trouve que son histoire personnelle, il lui arrivait une mésaventure à l'intérieur, justement, de l'atelier, et je le rapproche, de Velázquez. Elle a été violée par un compagnon de son maître, un procès. En quelque sorte, la dramaturgie de son sort a peut-être exaucé sa reconnaissance. En tout cas, il est incontestable que par son âge et par son sexe, qu'il n'était pas reconnu comme créateur à l'époque, et par la production, peut-être sous-évaluée aujourd'hui, à cause de ses mésaventures, elle est effectivement un génie.
Ces enfants prodiges. Et il y a des militaires...
Un enfant prodige, voilà.
Et y a-t-il
alors
des...
peut-être pas un génie, un enfant prodige.
Oui, plutôt que... Oui, encore que, bon, on peut discuter naturellement. Bon. Mais y a-t-il des militaires, des chefs de guerre dans votre choix d'enfant prodige? Vous allez jusqu'au XVIIIe siècle, peut-être Bonaparte y est, non?
Mais bien évidemment.
Vous proposez
le prince de Condé,
comme enfant prodige.
À la bataille de Rocroi, en un coup d'œil,
oui, Condé, c'est vrai,
il s'est évalué les effectifs. Il y a Bonaparte le reprend. La science de la maîtrise de la bataille dans l'instant, c'est le coup d'œil, c'est l'appréciation, c'est l'interprétation. Et voyez les âges de l'un et de l'autre. Le jeune Bonaparte, il est né en 69. À l'âge de 10 ans, on le place à Brienne, alors qu'il vient de petite noblesse corse et qu'il ne parle pas bien français. Et c'est grâce à son génie mathématique et à son application à l'étude que Il transcende, il passe tous les caps politiques qui auraient pu le faire chuter.
En tout cas, c'est certainement un livre passionnant. Malheureusement, nous ne vous recevrons pas ce soir sur ce livre. Je précise quand même aux auditeurs de Radio Courtoisie,
le
destin des enfants prodiges. Ouais. Donc, aux éditions du Cerf, vous êtes venu en parler à Radio Courtoisie
Non, ce livre est sorti. Il est sorti il y a un an ou deux, simplement. Je demande à en parler.
Je vous propose de venir que nous fassions une émission autour de ce livre, si vous voulez bien.
Très volontiers.
Nous prendrons rendez-vous aussi.
Oui, je crois que c'est votre spécialité, après tout, que vous êtes psychologue.
Ah, pas du tout. Non, c'est pas moi.
Ah non, c'est
vous, vous avez regardé sur Internet, effectivement, qui était Thierry Delcourt. Et alors, c'est vrai que quand vous tapez Thierry Delcourt sur Internet...
Ah, j'ai persuadé.
Oui, c'est le psychologue qui se trouve à Reims, qui a créé lui aussi beaucoup de livres. Alors, je vais sortir d'aparté, mais je ne vais pas dire sur quelle radio ça m'est arrivé. J'ai aussi écrit un livre, mais un seul livre, et je n'ai pas l'intention d'en écrire d'autres. Et j'avais été reçu sur une radio à Paris pour ce livre. Et puis, mon éditeur avait oublié de l'envoyer au journaliste et qui avait cherché sur Internet mon curriculum, savoir quel était mon parcours. Elle commence, donc elle me présente à la radio, on est en direct. Elle me présente comme le psychologue Thierry Delcourt, je suis désolé.
Je ne suis pas.
Voilà, ce n'est pas moi. Mais vous savez, des Delcourt, il y en a. Et il y en a notamment dans le Nord, hein, c'est un nom du Nord. Et des Thierry Delcourt aussi. Donc je ne suis pas le psychologue du Nord, mais je serais quand même ravi de vous recevoir sur ce sujet qui m'a l'air à vous écouter passionnant. Donc, le destin des enfants prodigues. Donc, dans cette époque des temps modernes, 16-18e siècle, puisque les temps modernes, ça couvre donc ces trois siècles, hein, 16, 17, 18e.
Voilà, c'est la convention de l'historiographie française.
C'est ça, mais alors,
les Anglais appellent ça, les Anglo-Saxons, « early modern » pour eux. Nous, on appelle ça « moderne »,« early modern » pour eux.
Et pourquoi « moderne » d'ailleurs? Pourquoi on appelle ces trois siècles les temps modernes?
Parce que par rapport au Moyen-Âge, si vous voulez, vous avez l'Antiquité.
Oui.
Vous avez ensuite quand vous vivez au XVIe ou XVIIe siècle, vous êtes au temps présent. Vous êtes dans les temps modernes. Et entre les deux, l'Antiquité et vous, il y a un intermédiaire moyen, c'est le Moyen-Âge. Donc vous avez l'Antiquité, le Moyen-Âge et naturellement les temps modernes. Et après, il faut bien trouver un mot, on dit que c'est contemporain après. Mais le contemporain, vous pouvez faire commencer le contemporain en 89... En 48, en 1914. Moi, je serais partisan de le faire commencer en 1914.
Et l'art moderne? Parce que dans l'art moderne, quand
l'art moderne,
on parle de
vous
l'art
savez,
moderne,
là,
c'est pas du tout
aussi qu'il y
a c'est
le nombre
en fait.
D'acceptions.
Oui.
L'art moderne, au fond, il est né vers 1920-30, à peu près.
Oui. Donc c'est une autre compréhension, un autre usage du mot. J'aimerais, avant que nous rentrions dans vos deux chapitres, en tout cas... Au moins le premier, je doute que nous ayons le temps d'aborder le deuxième chapitre. Premier chapitre, donc, c'est le pouvoir royal au temps moderne, justement. Votre période de référence, hein, sur laquelle vous êtes très reconnu, Yves-Marie Berset, ce sont justement les temps modernes. Qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré à devenir un spécialiste de cette période?
Alors, pour avoir travaillé sur cette époque, je dirais... en confidence, que c'est parce que quand j'avais, mettons, 10 ans, j'ai lu les romans de Capet-d'Épée, et de pas seulement Alexandre Dumas, mais aussi bien Paul Féval, ou un auteur oublié, Amédée Achard, Les coups d'épée de Monsieur de la Guerche. Voilà.
Oui,
c'était très lu à ma vocation, vocation de 17e-iste vient peut-être de l'âge de 10 ans. Mais enfin, ensuite, c'était parce que aussi, il y a tout de même des sources très abondantes, mais qui demandent une compétence tout de même de spécialiste, d'histoire de l'écriture, des institutions, de la société, d'où ma formation de chartiste, si vous voulez.
Alors vous aimez les romans de Capet-d'Épée, évidemment, puisque...
Mais
vous
je les ai aimés quand j'avais 10 ans.
C'est ça, oui. C'est précoce, ça, parce qu'en général, on lit plutôt vers 15-20 ans, 15 ans, oui, c'est ça. Mais croyez-vous que cette D'Artagnan qu'on a retrouvé récemment dans une église de Maastricht...
Mais ça serait assez logique, puisque il a été tué à Maastricht, il est dans le cœur de... pour moi, ce n'est pas une découverte. C'est-à-dire, si on m'avait demandé où chercher, j'aurais dit dans l'église de Maastricht. Mmh. C'est évident. Je veux dire, moi, je vois pas lieu de s'extasier. C'est la place où il devait être.
Mmh. Alors, je vous propose que nous abordions donc le premier chapitre que vous avez écrit dans cet ouvrage collectif Nouvelle Histoire de France aux éditions Passé composé, donc le premier chapitre, pouvoir royal au temps moderne, et le deuxième chapitre, lui, s'intitule Société donc des temps modernes. Pourquoi avez-vous écrit ces deux chapitres ?
Parce qu'on me les a demandés.
Oui.
Et puis parce que
sur le thème
effectivement,
précis, c'est...
C'est-à-dire qu'il fallait quelqu'un dans l'ensemble du livre de Ranceau pour couvrir... cette période, je dois dire qu'effectivement, quand je le compare avec l'ensemble des chapitres qui sont envisagés dans cette somme, je crois être un de ceux qui couvrent le plus long espace de oui. temps. Mais bon, c'est parce que Éric Ranceau a été assez bon
convaincant.
pour me croire capable de supporter cette charge.
Oui. Alors, quels sont les thèmes principaux que vous abordez justement dans ce chapitre, le pouvoir royal au temps moderne?
Ben, c'est l'histoire des institutions de la France monarchique sur 3 siècles et de son évolution, et justement qui ne se résume pas avec le terme d'ancien régime, dans la mesure où entre la France de Charles VIII, mettons, et celle de Louis XVI, il s'est passé tellement de changements, de transformations, d'évolutions, que le... y voir une seule droite ligne centralisatrice et employer le terme d'absolutisme pour la résumer, tout ça est une sorte de myopie historique et d'instrumentalisation du passé et de transformation. Parce que, en fait, les institutions de la France auraient pu, plusieurs fois, évoluer très différemment. Notamment du fait des assemblées d'État, d'États généraux, qui auraient pu, au XVIe siècle, modifier totalement le mode de gouvernement, et ce qui n'avait rien d'extraordinaire dans la mesure où c'était la norme dans le reste de l'Europe. Les communes en Angleterre, les diètes en Allemagne ou en Pologne, les cortès... en Espagne, le thème de gouvernement par assemblée et désignant un souverain était commun dans l'ensemble de l'Europe. Donc, l'idée que la transformation opérée par Louis XIV à partir de 1660 a été décisive, et elle a fait disparaître cette virtualité de transformation du mode de gouvernement par les États généraux. Qui était vivante jusque dans les années de la Fronde, puisque c'est quelque chose que j'ai exploité, je suis le seul à avoir développé, entre 1651 et 1653, il y a eu 7 convocations des États généraux, avec des publications, des rédactions de cahiers de doléances. Louis XIV a aboli totalement, en 1660, ce type de recours. Il a changé tout un tas d'éléments des institutions, dans la noblesse, dans la structure des parlements, dans le gouvernement des provinces, dans la hiérarchie des religions, et qui étaient intégrées dans des statuts de corps de l'ancienne France. Il a voulu en quelque sorte gallicaniser l'Église de France et supprimer la confession réformée, qui était l'un des statuts de l'ancienne France, admis, selon la coutume, par l'édit de Nantes, qui n'était pas une négociation, mais une concession du roi selon les structures de corps de l'ancienne France. Le fait que ce tournant de 1660 et du mode de gouvernement soit essentiel, c'est que au moment de la peu avant la mort de Louis XIV, les traités de paix, après la guerre de succession d'Espagne. Les Anglais ont demandé la signature de Louis XIV et une ratification par les États généraux. Les plénipotentiaires anglais ont demandé. Et les plénipotentiaires français ont été extrêmement embarrassés parce qu'ils ont dit « Oh, mais vous savez, c'est pas vraiment ce qu'on peut faire en ce moment. » Or, à la même époque, en 1710, Fénelon publie un traité demandant la réunion annuelle des États généraux. Il faut attendre ensuite 1780 pour que ce mythe, ce qui était devenu un pur mythe, revienne. Et à ce moment-là, il était condamné en quelque sorte à devenir catastrophique. Mais si la Fronde avait réussi, si les États généraux avaient été annuels, le destin de la France aurait été totalement différent.
Et pourtant, la régence entre Louis XIV et Louis XV a rendu...
Eh bien si, il y a eu aussi un autre mode de gouvernement, la polysynodie, oui. qui était beaucoup plus, libérale, enfin si on peut dire décentralisée, et qui remettait théoriquement, assez maladroitement, mais le pouvoir à des spécialistes, issus soit de la grande noblesse, soit... d'une compétence exceptionnelle, scientifique ou militaire.
Permettez-moi de présenter aux auditeurs de Radio Courtoisie les thèmes principaux que vous abordez donc dans ce chapitre, dont je rappelle le titre, Pouvoir royal au temps moderne. Parce que en quelques pages, hein, vous faites une synthèse passionnante, justement, de l'évolution du pouvoir royal à travers la loi fondamentale de succession, la fonction justicière du roi. Vous évoquez les assemblées d'État. Ces fameux États généraux.
États généraux et États provinciaux. Et il y avait 16 États provinciaux subsistants en 1789.
Et puis, il faudrait que vous nous précisiez d'ailleurs la différence entre les États provinciaux et les parlements. Ce sont des choses bien différentes.
Ah ben tout à fait.
Oui.
Les États représentent le consentement des assujettis, des sujets du prince, à son mode de gouvernement, à ses décisions de lever une aide financière qui est limitée par un consentement. Il faut faire appel donc à la société qui est représentée par ces trois ordres traditionnels qui sont le clergé, la noblesse et le tiers-état, c'est-à-dire tout l'ensemble de la société qui n'est ni ecclésiastique ni nobiliaire. Et cette structure, si vous voulez, est le fondement du gouvernement déjà très clairement dans la monarchie du XIIIe siècle. Ensuite, au XIIIe siècle, le pouvoir du roi, le pouvoir central, souverain, passe par un droit de la justice et des règles de coutume et de jurisprudence qui est confié à des cours souveraines qui s'appellent des cours de parlement, le premier étant le cours de parlement de Paris. Ensuite, il y aura cinq cours de parlement principaux, ceux de Toulouse, Aix, Dijon, voilà, bon.
Et puis je poursuis les thèmes que vous présentez aussi.
Rennes, si j'ai oublié.
Oui, alors je poursuis sur les thèmes que vous abordez, donc dans ce chapitre consacré au pouvoir royal et son évolution, naturellement, au temps moderne. Il y a toute une partie, en effet, consacrée à Louis XIV. Vous venez en partie de l'évoquer.
Oui, alors, reviens peut-être, parce que ce que vous avez insisté, c'était le contraste entre les États et le Parlement.
Entre les États et les parlements,
Le Parlement, effectivement, dit le droit. Il juge,
oui.
Et il peut, ce qui est tout de même, ce qu'on ne le dit pas assez, c'est que le Parlement de Paris, sous Louis IX, peut très bien casser, donner tort un procès du domaine royal, s'il n'est pas fondé sur des textes, s'il ne correspond pas à la volonté du roi, au texte voulu par le roi. Donc il dit le droit, et pas contre le prince, bien sûr, mais il dit le droit que le prince a formulé, mais que, bien entendu, dans sa quotidienneté, il ne peut pas avoir présent l'esprit à tout instant.
Nous reviendrons, en effet, sur le rôle des parlements, vous l'abordez hein, dans ce chapitre. Vous évoquez donc Louis XIV, tel que vous venez de le faire, et puis aussi, il y a une partie très importante, très intéressante de ce chapitre, qui est consacrée aux institutions militaires et à leur évolution, marquée par le fait que l'on passe de 1625 à 1680 d'une armée royale de 20 000 hommes à une armée royale de plus de 400 000 hommes. Donc ça bouleverse complètement, en effet, les institutions militaires, et ça vous consacrez un chapitre, d'autant que dans la conception de cette nouvelle histoire de France, les chapitres sont complétés par ce qu'on appelle des focus. C'est-à-dire qu'on se concentre sur un sujet très, très, très précis. Et parmi les focus que vous présentez dans ce chapitre, il y a celui de l'apparition d'obligations militaires. En quelque sorte, comment le service militaire apparaît en France au XVIIe siècle, d'ailleurs.
Bien, au XVIe, début du XVIIe siècle, le métier de la guerre est un exercice privé. C'est une, bien sûr, la décision de la guerre et sa conduite est une dépend des institutions politiques du souverain. Mais personne n'est obligé de servir sous les armes. Chaque capitaine ou colonel est propriétaire de sa troupe. Le régiment porte son nom et les soldats ils sont uniquement volontaires. Ils sont soldés. Ils ont une sorte de contrat. Alors, on peut plus ou moins l'honorer. Alors, il faut plus compter parfois sur le butin que sur la régularité de la solde. En tout cas, l'engagement dans la guerre est une aventure privée. Et ensuite, il faut se
prendre... J'ai une question à vous poser sur cette armée privée, en quelque sorte, avec des charges.
L'armée n'est pas privée, elle appartient au roi. Les régiments,
sont des charges.
Soldats.
Ce sont des charges, les régiments. Ceux qui dirigent les régiments sont propriétaires du régiment.
Oui,
c'est une charge qu'on achète.
Oui, absolument.
Et la question que je voulais vous poser, justement, c'est ces chefs de guerre, puisque ces nobles qui sont propriétaires de régiments vont à la guerre pour le service du roi. Ils ont ces charges. Est-ce que c'est complètement différencié du mérite? Alors, le fait de commander un régiment, c'est complètement différencié de ses talents militaires propres, puisqu'il suffit d'acheter la charge pour l'avoir.
Oui, bien sûr, il y a tout un tas de colonels suisses ou allemands qui ont des charges dans l'armée française.
Qu'est-ce que ça leur rapporte, puisqu'ils ont... Ils ont investi dans une charge, c'est pour tirer quelque chose. Qu'est-ce que ça leur apporte ?
Ils ont un revenu, ils ont effectivement, qui est aussi irrégulier que celui des soldats, mais qui finit toujours par être payé. Non, c'est rémunérateur, au bout du compte.
Mais dans l'affectation de cette responsabilité, de cette charge, comment le mérite est-il pris en cause, en compte, pardon ?
Eh bien, avec les résultats.
Oui, mais le colonel qui a acheté une charge, je prends un exemple, pardonnez-moi. Le colonel achète au début du XVIIe siècle, il achète un Suisse, un Allemand, comme vous voulez dire, ou un Français, il achète une charge, dans le but, effectivement, d'en retirer des revenus, il commande un régiment.
Mais on n'est pas forcé de lui vendre. Il y a le secrétaire d'État à la guerre qui est.
Il y a un choix qui est fait.
Bien sûr, on ne va pas donner ça à n'importe qui.
C'est ça, d'accord. Donc il y a le fait d'acheter la charge, mais il y a aussi la sélection.
Bien sûr.
Ce n'est pas qu'une question financière.
Non.
D'accord. Et pour être...
Mais aussi, si ça peut arriver, mais dans ce cas-là, ça se sait assez vite que quelqu'un est incapable.
Et s'il est incapable, on le retire sa charge. Le roi a le pouvoir de lui retirer sa charge.
Bien sûr.
Ou le roi
travaille. On l'oblige à la vendre.
Ses intendants, on l'oblige, on lui fait comprendre.
Voilà.
Pour être officier à cette époque, dans cette première armée donc, de volontaires, au début du XVIIe siècle, pour être officier, il fallait être noble. C'était
oui.
une obligation.
Oui, mais comme vous savez, la noblesse est une notion assez... qui n'est pas définie juridiquement. Les vieilles ordonnances médiévales prétendent que c'est le roi seul qui peut anoblir. Or, en fait, au XVIe siècle, la noblesse est vécue sur le consentement local, sur le genre de vie dans une province et la reconnaissance par les familles de noblesse du lieu. Autrement dit, la noblesse a sa propre dynamique sociale. Et c'est sous Louis XIV, avec l'ordonnance de 1667, de révision des titres, que la noblesse va être étatisée et perd une grande partie de sa signification sociale, parce que, effectivement, peut-être 20% des nobles examinés par les intendants, dont les titres sont examinés par les intendants en 1667, sont rejetés. Or, ceux qui ont acheté des titres d'office, de bureau des finances ou autre, ils viennent de les acheter il y a 50 ans, ils n'ont aucune peine à prouver leur noblesse. Par contre, un vieux gentilhomme qui aura servi et dont les parents auront servi en Allemagne pendant 50 ans, il n'a pas de papier, lui, pour prouver qu'il est noble. Il était simplement reconnu. Et donc, les gens qui vont tomber, c'est ceux qui vivent noblement. Et d'autre part, autre changement dans la noblesse, c'est que pour, en quelque sorte, confirmer la noblesse, à partir surtout de Louis XIV, il faut vivre à la cour. Or, ça suppose un train de revenus que la noblesse provinciale ordinaire ne peut pas se permettre. Donc, par ces deux biais d'étatisation réglementaire et de contrôle empirique de la fortune et de la vie à la cour, l'image de la noblesse, l'image socio-intellectuelle ou culturelle et économique de la noblesse change totalement sous Louis XIV.
Quelles sont les conséquences de cette mesure qui, bien, vous la décrivez comme un peu injuste, finalement.
Mais je suis à peu près le seul à le dire aussi clairement. C'est la suprématie de la noblesse d'office. Et c'est la montée en puissance de la bourgeoisie d'État.
Est-ce que ça a des conséquences autres que celles que vous décrivez?
Oui, la transformation de la société au cours du XVIIIe siècle, la nouvelle sociabilité se crée avec la régence, en rupture avec le style, si on peut dire, de gouvernement et de vie du jeune Louis XIV, dans le temps de la régence, et en rupture avec Versailles. Il y a un retour à Paris, et où les gens se retrouvent non pas dans le salon d'une maîtresse du roi, mais dans des cabarets, dans des loges, ou dans des salons littéraires, et avec un recrutement social qui est parisien. Et une grande partie, d'ailleurs, de la vie sociale et économique revient à Paris.
Ce décret, là, cette enquête sur la réalité de votre titre de noblesse voulu par Louis XIV, la conséquence, vous nous expliquez, c'est en quelque sorte la suprématie, la prise de contrôle de la noblesse par la noblesse de robe.
En nombre et en efficacité, oui, bien sûr.
Et on est
non, mais c'est pas, il ne faut pas le comprendre comme une lutte sociale,
oui.
Comme on l'imaginait au XIXe siècle. C'est l'analyse comptable, que je dirais. C'est l'idée que, dans le poids de la société, c'est la noblesse d'office qui, en fait, fait qui donne le là.
C'est aussi eux qui ont les moyens financiers.
En grande partie.
Puisqu'ils ont pu acheter, en effet, des charges qui justifient leur titre de noblesse.
Oui, oui, oui.
De noblesse de robe.
Oui, oui, alors effectivement, à ce moment-là, Il faut faire des preuves de noblesse qui est plus facile d'obtenir quand on a une noblesse d'office, puisqu'on a les titres assez récents. Et alors, théoriquement, il faut 4 générations. Mais cette noblesse d'office, elle n'est pas de rien. Elle a grandi, effectivement, dans les offices du Parlement ou des finances. Et c'est ensuite ça, c'est ce modèle qui est institutionnalisé et qui gouverne la vie nobiliaire du XVIIIe siècle.
Alors, dans ce chapitre aussi, donc, il y a toute une partie, comme je le disais, qui est consacrée à l'apparition des obligations militaires. En quelque sorte, c'est Louvois et Louis XIV qui sont les inventeurs de la conscription.
Oui, parce que dans les institutions militaires. Et sur le fait que cette armée était, en quelque sorte, composée de volontaires et privés. Mais il faut comprendre, tenir compte du fait que la France, avec 20 millions d'habitants, est le pays le plus puissant, le plus peuplé de toute l'Europe de ce temps. Et qu'il y a une suprématie, de fait, de la puissance française, occupant présence sur trois mers. Capable de nourrir ces 20 millions d'habitants. Et c'est ça qui justifie la puissance, qui fonde la puissance Louis XIVienne. Donc, la politique de Louis XIV va résulter de cette prise de conscience. Et pour la défendre, si toute l'Europe coalisée se réunit contre la France, même très peuplée, elle excède le nombre d'hommes, d'où la nécessité pour la France d'augmenter les effectifs, de monter jusqu'à 400 000 hommes. Alors, il y a deux cas d'obligation, qui est d'abord les classes de marine. On veut créer...
Ça commence par les marins, en effet.
Par les marins, en 1769. Ouais. On crée une obligation de service de 5 ans pour des gens qui sont de métier maritime, qui sont inscrits. C'est ce qu'on appellera l'inscription maritime. Les pêcheurs, les mariniers, les armateurs, les débardeurs, des quais. Et ça existera jusqu'en
1967, écrivez-vous, c'est incroyable.
Exactement.
Mais ces marins, en fait, c'est le début finalement de la conscription. ces marins, ils sont rémunérés quand ils sont...
Oui, bien sûr.
Ils sont rémunérés.
Oui, mais ils risquent beaucoup plus leur vie. Et ils regagnaient bien plus en pêchant pour leur compte. Et c'était des marins pêcheurs. Ils gagnaient leur vie largement.
Alors, ce système-là...
Et ensuite, vous avez les milices.
Voilà.
C'est à partir de la guerre de l'île d'Augsbourg. Il y a une infériorité numérique, logique, et qui oblige à, comme un impôt d'homme, à recruter dans les communautés un homme valide, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, en fonction du nombre de feux, pour servir comme l'ancien soldat.
Voilà, c'est ce que vous écrivez. Chaque paroisse doit, comme un impôt payé en hommes, fournir un contingent de milices composé de célibataires de 20 à 40 ans. À partir de 1692, ils sont tirés au sol. Et vous écrivez je précise pour dire que c'est vraiment un phénomène important parmi ces 400 000 hommes. 40% des effectifs totaux, c'est la milice. Alors, je suis très étonné parce que je voulais vous poser cette question. Alors, c'est candide, pardonnez-moi, mais je ne suis pas historien. Ça ne provoque pas une révolte parce qu'on a en tête les guerres de Vendée. Et ce qui déclenche les guerres de Vendée, quand même,
c'est
l'impôt en hommes par paroisse, là aussi, en 1793. Mais là, ça provoque une guerre très importante. Et cette mesure voulue par ces Louvois, j'imagine, de cet impôt payé en hommes par paroisse, ça
oui,
passe.
Oui, parce qu'on peut racheter. C'est ça qui change totalement. Ça fait qu'au bout du compte, ce sera les plus pauvres, des gens qui n'ont pas d'autres moyens de survivre, qui sont bien heureux de pouvoir avoir la nourriture, l'uniforme et un traitement.
C'est l'erreur de la République de ne pas vous avoir fait ça en Vendée, alors.
Voilà. Et alors, dans le cas de la Vendée, qui choque les villageois vendéens, c'est qu'ils voient les bourgeois des villes s'exempter. Et c'est pas encore la conscription. Hein. La conscription, c'est 1798, c'est oui. Le directoire, c'est la loi Jourdan. Et c'est simplement la levée en masse, mais qui est en quelque sorte contrainte, mais qui épargne en grande partie les habitants des villes. Ce que ne peuvent pas ne pas constater les paysans.
Mais là, c'est un peu le cas, puisque ils peuvent aussi monnayer l'échange, en quelque sorte. C'est-à-dire que ceux qui ont de la fortune vont payer.
Oui, c'est ça.
D'autres
c'est
pour ça. On est dans le même système. Et ce qui est étonnant, c'est que ça passe tout seul. Quoi.
Dans le Vendée, il y a vraiment beaucoup d'autres...
D'autres facteurs. Il n'y a pas que ça, finalement.
Facteurs.
D'accord.
Tandis que là, dans le cas de la milice, c'est une révolte individuelle. Il y a des gens qui désertent. Il
oui.
y a beaucoup de... Les effectifs ne sont pas toujours complets. Enfin bon.
Et vous écrivez,
mais c'est une révolte individuelle.
Voilà. Oui. Et vous écrivez dans ces deux innovations, ce sont réellement des innovations, vous pensez que ça venait avec la Révolution, mais non, ça commence sous Louis XIV. Dans ces deux innovations, des classes de marine et des levées de milices, l'État s'attribue un pouvoir jusque-là exceptionnel. Cela préfigure sous le directoire la systématisation du service militaire des jeunes gens par la loi de conscription générale de Jourdan en 1798.
Et je souligne deux ou trois traits parce que c'est tellement vrai.
Alors Yves-Marie Verset, je vous propose, nous faisons une petite pause. Un message de la radio, suivi d'une pause musicale. Vous avez souhaité très naturellement une musique du XVIIe siècle, Jean-Baptiste Lully, Bergers et Bergères, extrait du Ballet des Arts. Et nous reprenons bien sûr, après cette pause musicale, notre discussion.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Thank you.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons notre discussion avec Yves-Marie Berset, qui est professeur des universités, membre de l'Institut de France, à l'occasion justement de ces deux chapitres qu'il a écrits dans cette passionnante, très complète nouvelle histoire de France, dirigée par Éric Anceau, aux éditions Passé Composé. Yves-Marie Berset a écrit notamment le chapitre dans Politique et spiritualité consacré justement à l'évolution du pouvoir royal au temps moderne, donc 16e et 18e siècle, et puis le chapitre suivant dans la partie espace et société est consacré justement à l'évolution de la société française dans ces temps modernes. Nous reprenons notre discussion. Nous allons maintenant aborder deux termes. C'est l'aspect justement de la personne sacrée du roi, et des lois fondamentales de succession qui sont très particulières justement au Royaume de France. Et nous évoquerons aussi l'aspect fiscal, parce que c'est le roi qui, en quelque sorte, qui lève l'impôt. Et quelles étaient justement, quelles étaient les politiques fiscales, et surtout, parce que c'est la spécialité de notre invité, ce sont les révoltes que cela a provoquées, ces révoltes paysannes au temps moderne. Bon, j'espère que nous aurons le temps de couvrir tous ces sujets, parce qu'il nous reste à peu près 25 minutes seulement à passer, mais sinon vous reviendrez. Alors nous avons des messages d'auditeurs, un auditeur qui signale le livre que vous avez écrit sur Notre-Dame de Lorette.
Oui, c'est vrai. Oui, non, mais alors Notre-Dame de Lorette, comme vous savez, l'église de Lorette, enfin, a été transportée par les anges en 1291, au moment de la chute de Saint Jean d'Acre, de la dernière place chrétienne de Terre Sainte, et les anges ont transporté cette chapelle à un lieu précis en Croatie qui s'appelle Tersato, qui est à côté de Fiume, du port. Pourquoi l'ont-ils c'était pas par hasard. Les gens avaient assez bien choisi, parce que c'était la première forteresse du royaume de Hongrie-Croatie. Et la couronne était disputée entre une famille locale et les Angevins de Naples. Autrement dit, les anges venaient confirmer en quelque sorte la candidature des Angevins de Naples au trône de Hongrie-Croatie. Et puis, c'est la dynastie locale qui, momentanément pour 20 ou 30 ans, a triomphé à Budapest, et les anges ont transféré à ce moment-là la Sainte-Chapelle sur la côte des Marches, à côté d'Ancône et de Recanati, dont l'évêque de Recanati était le secrétaire du pape de l'époque. Donc les anges, si vous voulez, agissaient avec de très bon escient. Et ensuite, comme on ne pouvait plus, à partir du XVe siècle, accéder en Terre Sainte, la meilleure manière de reconnaître la naissance de Jésus, c'était de venir, non pas à Nazareth ou à Jérusalem, mais à Lorette, ce qui était moins dangereux et plus commode.
En tout cas, cet auditeur a apprécié particulièrement votre livre, c'est ce qu'il tient à souligner. Vous l'avez publié à quelle maison d'édition ?
Les Presses de la Sorbonne.
Les Presses de la Sorbonne, donc Notre-Dame de Lorette, c'est le titre ?
Le plus grand pèlerinage de la Vierge des temps modernes.
D'accord. Un auditeur, pensez-vous qu'en rassemblant la noblesse à Versailles, Louis XIV a transformé les aristocrates en domestiques impuissants et capables d'agir localement dans leur fief?
En grande partie. Ça peut se discuter ad infinitum. Mais oui, parce que la plupart, économiquement, des nobles provinciaux n'avaient pas les moyens. Il fallait un train de vie assez considérable pour rester longtemps à la cour.
Un auditeur Alors, j'ai un peu de mal à comprendre sa question. Il signale que l'Église catholique n'acceptait pas l'usure. Ah oui, c'est ça. Pardonnez-moi. Puisque l'Église catholique n'acceptait pas l'usure, vers quel financier se tournait-il pour emprunter des sommes astronomiques pour financer les guerres et le château de Versailles, par exemple? En fait, c'est tout un... vous développez ce thème, hein, qui est la fonction fiscale, hein, la conquête la de l'impôt étatique.
Le roi n'emprunte pas voilà. De l'argent, c'est des banquiers, enfin des gens qui disposent de moyens, qui font des avances au roi, mais c'est pas susceptible du prêt à intérêt. Et de toute façon, le prêt à intérêt... Et admis, je crois que c'est à 6%, je ne sais plus exactement quel est le taux admissible. Enfin, je veux dire, la question là ne concerne pas le moyen de... À partir de Henri IV, la monarchie française fait systématiquement appel à des avances d'argent pour les impôts subsistance.
C'est le système de fermage, c'est ça, ce oui, que vous c'est nous ça. Expliquez, qui mais est commun à toute l'Europe, d'ailleurs.
Tous les royaumes, tous les États de la même époque font ça parce qu'ils n'ont pas de personnel spécialisé, ils n'ont pas de caisse d'avance. Et par conséquent, ils dépendent effectivement du crédit courant.
Et pourtant, il y a des intendants. Vous expliquez dans ce chapitre que les intendances se développent, notamment sous Louis XIV.
Se développent,
mais c'est insuffisamment.
Plus. Non, ouais. Les intendants acquièrent une puissance extraordinaire à partir des années 1630. Avant, les intendants sont des maîtres des requêtes au Conseil d'État, qui reçoivent une commission particulière. Le système s'établit à partir du règne de Henri II, pendant les guerres de religion. Souvent, c'est un maître des requêtes qui est envoyé comme intendant pour faire appliquer un édit de pacification. Dans les années 1630, du fait de l'extraordinaire assaut fiscal gigantesque, le plus grand de toute l'histoire de France, voulu par Richelieu, à partir des années 1630, que les intendants deviennent des potentats provinciaux munis qui sont juges de leur propre... Ils ne dépendent pas du Parlement et ils ne dépendent pas des troupes de prévôté, de maréchaussée. Ils ont leur propre fusilier, leur garde de fusilier. Et eux, ils jugent eux-mêmes de leur cause. Et c'est une des causes, c'est une des raisons de la fronde. La fronde, je veux la comprendre... comme une révolte générale de l'ensemble du pays.
Contre cette politique, justement,
oui,
fiscale.
De Richelieu et Mitterrand.
C'est difficile de comprendre ce système du fermage, en fait, parce que...
Parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, parce qu'encore une fois, les États médiévaux n'ont pas un appareil de...
Pardonnez-moi, Yves-Marie Bercier, le fermage, c'est que des personnes très fortunées vont avancer les produits des impôts... à l'État, ils l'avancent et chargent à eux de récupérer, de faire rentrer l'impôt.
Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Ça peut être, en l'occurrence, sont les structures fiscales. Il y a les bureaux des finances dans les généralités et les élections qui correspondent à peu près à la dimension d'un arrondissement aujourd'hui. Et c'est les receveurs des élections qui sont chargés. Et puis alors, ça, c'est pour les tailles. Pour alors, vous avez raison, pour les impôts de subsistance, ce sont des agents locaux qui sont recrutés sur place, ils sont intéressés à multiplicité de petites fermes locales affiliées à la ferme générale.
Comment les responsables des fermes se rémunèrent-ils?
Eh bien, avec le revenu.
Oui, mais ils prêtent. C'est la différence entre l'argent...
Non, mais cet argent est transféré...
Ils avancent cet argent. Ils avancent l'argent à l'État.
Oui.
Et ils vont le récupérer.
En l'occurrence, c'est des archers de maréchaussée qui transfèrent les fonds. Il y a des escortes de maréchaussée, de 20 ou 30 hommes qui transportent les fonds.
Mais leur rémunération, c'est la différence entre ce qu'ils ont avancé à l'État et ce qu'ils récupèrent à travers les impôts. C'est ça leur rémunération.
Non, mais ils sont contrôlés. Et au bout de 4 ou 5 ans, dès le règne de Henri IV, il y a une chambre de justice qui contrôle l'exercice des fermes.
Oui, mais comment
et qui se termine toujours par des accommodements. C'est-à-dire que les fermiers d'impôts condamnés parviennent à une négociation.
Yves-Marie Berset, ma question c'est comment ceux qui sont propriétaires de ces fermes, de ces fermages, qui sont des gens très riches, d'où vient leur profit? Comment se rémunèrent-ils pour le service qu'ils apportent, puisqu'ils avancent l'argent des impôts et qu'ils vont récupérer par la levée?
Les fournisseurs du marché parisien, par exemple, les bouchers de Poissy, les marchands de blé de Charenton ou de Meaux, c'est les gens riches de Paris.
Oui, mais ces personnes-là doivent un certain montant d'impôts.
Paris est exempt des tailles.
Oui, mais ma question en fait, c'est je suis fermier général, j'avance l'argent des impôts à l'État.
Non, mais fermier général, c'est une association.
Oui.
Il n'y a pas un fermier général.
D'accord.
C'est une association de prêteurs. Ces personnages sont soumis au contrôle du surintendant des finances, qui devient, sous Louis XIV, contrôleur général des finances, et avec la périodicité, qu'ils savent certaines, de chambres de justice qui vont leur demander la vérification de leurs comptes 5 ans plus tard et prononcer des condamnations, parfois très lourdes, et avec lesquelles ils vont de nouveau négocier.
Yves-Marie Berset, il ne reste malheureusement qu'un petit quart d'heure à passer en votre compagnie. Je vous propose d'aborder un sujet qui vous est cher, mais qui est lié à la question fiscale. Ce sont les révoltes paysannes. Donc, durant ces temps modernes, avec quelques exemples que vous pourriez nous donner, justement, pour nous présenter les causes, leur déroulement, les conséquences. Auparavant, alors c'est une question que pose un auditeur, je vous la propose telle qu'il l'exprime. Ne pensez-vous pas qu'une monarchie, avec ses institutions et sa constitution, pourrait redonner actuellement à la France l'éclat qu'elle n'a plus?
Moi, je veux bien, je ne demande pas mieux. Mais la France du XVe, XVIe siècle est peuplée à 95% de paysans, de laboureurs, dont les niveaux sociaux et économiques sont très différents. Vous avez des grands laboureurs, fermiers de seigneurie, et puis il y a un système qui va s'introduire de plus en plus, qui est la métairie, qui partage la récolte à moitié et qui donne une garantie au métayer. C'est-à-dire à ce moment-là, en cas de procès, si vous voulez, le métayer, si vous voulez, a une sorte. Et bien sûr, il peut être révocable, sa position est faible, mais juridiquement, il est défendu en même temps. Alors, vous avez des gros laboureurs qui sont des gens extrêmement puissants. Alors, je cite le cas des. Voyons. Il y a les Détors qui sont à Gonesse, je trouve plus les noms, enfin peu importe.
Vous le citez d'ailleurs, Détors à Gonesse, dans votre livre,
oui,
dans votre chapitre,
Yves Meyer. Oui, un musicien bien très fameux de. Voyons, je ne trouve plus le mot, écoutez, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, généralement, ne sont pas intéressés, enfin, ne sont pas concernés par l'impôt. C'est l'immense majorité des habitants du royaume payent les tailles à partir du règne de Charles VII. C'est seulement à partir du règne de Charles VII, à la fin de la guerre de Cent Ans, que les tailles deviennent un impôt annuel régulier, auxquels sont soumis tous ceux qui ne sont pas nobles. Voilà.
Donc les nobles ne payent pas d'impôts.
S'ils rentrent des troupeaux dans une ville, ils payent le droit d'entrée.
Oui, ils payent des taxes.
Ils payent des taxes de vivre.
Mais ils ne payent pas les tailleurs. Les tailles, c'est
Oui, parce que les tailles, c'est le revenu de la terre. Donc, on considère que c'est les laboureurs qui doivent... C'est la logique du XVe siècle, si vous voulez.
Mais les nobles qui ont des terres et qui produisent des revenus sont exemptés de tailles.
C'est payé par leurs fermiers. C'est-à-dire que, je veux dire, si leur fermier est ruiné, il faut bien qu'ils défendent leur fermier.
Oui.
Ça ne veut pas dire, le noble ne vit pas aux dépens de son fermier.
Est-ce que c'est un impôt très lourd pour ceux qui le subissent?
Eh bien, ça ne l'est pas au départ, ça le devient énormément sous Louis XIII et Richelieu.
Parce qu'il est augmenté donc progressivement.
À partir de Sully et Henri IV, mais surtout... à partir de Louis XIII et Richelieu, du fait de la guerre européenne de 1635 à 1669, une guerre ininterrompue contre l'Espagne.
Alors, ce sont ces tailles et l'évolution des tailles qui provoquent ces révoltes paysannes
Les pays d'État, les grands pays d'État, la Bretagne, la Bourgogne, le Languedoc et la Provence, les quatre grands pays d'État, reçoivent un ordre de paiement, mais ils ont la possibilité de le répartir à leur guise et de gérer ce recouvrement. De sorte que, comme ils sont puissants, ils payent énormément moins que les pays d'élection. On oppose les pays d'État et les pays d'élection. La Normandie, qui n'est plus pays d'État, qui a perdu ses États au cours du 15e, 16e siècle, est la province qui, proportionnellement, paye le plus de taille. Le Sud-Ouest paye beaucoup, mais le Sud-Ouest s'était racheté de la gabelle. En 1548, imposer la gabelle, c'est-à-dire l'impôt sur la consommation de sel aux gens du Sud-Ouest, était une absurdité géostratégique, puisque le sel venait de Marennes. Si vous voulez, il était juste à côté. Donc, cette révolte qui a été écrasée dans le sang par le duc de Montmorency sur l'ordre de Henri II, a été, 2 ans plus tard, transformée par une capitulation totale de l'État qui a supprimé la gabelle pour ce qu'on appelle l'ensemble du Sud-Ouest et de l'Ouest, les pays rédimés, qui ont un tarif extrêmement faible. De sorte que la gabelle la plus lourde était payée en Île-de-France et dans le Nord, si vous voulez. Où en étais-je? Vous avez là une première révolte contre la gabelle. Ensuite, vous avez des révoltes à la fin des guerres de religion du fait que la souveraineté étant divisée entre la force de la Ligue et les forces royalistes de Henri IV, ça faisait que souvent, en fonction des allées et venues des troupes, les gens étaient obligés de payer 2 fois. Donc ils se défendaient. Et donc en 1594, dans le centre de la France, Limousin, Périgord, Quercy, la révolte qu'ils appellent la révolte des taravisés, qui sont contre, justement, le recouvrement des tailles qu'ils trouvent injustes, illégales, voilà. Et ça va durer 2 ans, 94-95, révolte des taravisés. Ensuite, vous avez, à partir de la montée en puissance du fisc, à partir de 1634-35, une révolte des villes de Guyenne, Agen, Bordeaux, en 1635, s'étendant à l'Angoumois en 1636, au Périgord en 1637, où ils forment l'armée des croquants, qui dure environ pendant 6 mois, qui est une armée paysanne et nobiliaire. Et quand il y a une révolte provinciale qui réunit des milliers de gens en armes, avec des petits nobles à la tête. Il faut envoyer l'armée. Et l'armée, elle est aux frontières. Elle est en Pays basque ou bien elle est en Flandre. Par conséquent, il faut 2 ou 3 mois. Et les croquants ne sont écrasés qu'en juillet et août 1637. Et alors, le mot de croquant, c'est une insulte. Eux, ils s'appellent les communes du Périgord. Et c'est la révolte des communes. Parce que ça, ils sont élus par la communauté, la paroisse, qui peut être un gentilhomme. Et alors, ensuite, vous avez ces soulèvements paysans se poursuivent ensuite en Normandie, où là, c'est un peu contre la gabelle, parce que dans le Cotentin, on payait un taux de gabelle moindre en faisant bouillir le sable des côtes, dont on tirait le sel. Et donc, c'est la révolte des nu-pieds de Normandie en 1639.
Des nu-pieds, pour quelle raison les a-t-on appelés nu-pieds?
Parce qu'ils sont nu-pieds, bien sûr. C'est eux qui s'appellent comme ça.
D'accord.
Mais parce que ne fût-ce que pour récolter le bouillon de sel, il faut le faire
Il faut nu-pieds. Bon.
Et alors, le Parlement de Rouen est suspendu, par exemple, pendant 1 ou 2 ans. Et c'est une répression terrible. Alors, pendant la Fronde, vous avez des soulèvements paysans partout. D'ailleurs, au point que, mais là aussi, on ne vous le répète pas, en juillet et août 1648, des intendants quittent, ils s'en vont. Ils sont réétablis 1 ou 2 ans plus tard, avec le titre de commissaire des partis. On évite le mot d'intendant. Et vous voyez, ce roman national, on vous le... vous ne trouvez même pas.
Mais c'est Marie Berset, toutes ces révoltes que vous décrivez comme à la fois très nombreuses.
Oui. Et elles sont pas cohérentes. Elles se donnent pas la main. C'est pas une révolte politique.
C'est spontané.
C'est une révolte antifiscale.
C'est antifiscale et spontanée. Avec une expression qui est particulière quand vous décrivez, par exemple, que les communes élisent des chefs.
Oui, absolument. Bien sûr, pour
mener les
combats. Oui, alors, comment ça va se terminer?
C'était ma question, en fait. Comment ça se termine, ces révoltes, en général?
Ça se termine au début du XVIIIe siècle.
Non, mais ça
bien avant.
Oui.
Colbert a compris qu'il fallait faire tomber, si vous voulez, absurdement, de 1630 jusqu'à 1660, on a fait tomber, au jour le jour, tout le poids des dépenses militaires sur les tailles. Colbert a compris qu'il fallait faire payer les villes et les impôts de subsistance. Et il a réduit immédiatement énormément les impôts paysans. Et voilà le secret.
Et donc, ces révoltes
se
sont arrêtées avec Colbert.
Une répression aussi. Colbert a joué un grand rôle bienfaisant en faveur des paysans.
Ce qu'on ignore, en effet, parce que Colbert a vraiment l'image de l'homme à impôts, en quelque sorte.
Il a fait payer les villes,
oui,
et les nobles, c'est pour ça la différence.
Et donc, toutes ces révoltes que vous écrivez, qui sont impressionnantes, qui sont violentes, elles se terminent toutes dans le sang, dans la répression, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation pour que ça se termine paisiblement.
Il y a tout ça au niveau des communes, entre les petits gentilshommes locaux, pour le sud-ouest, le Parlement de Bordeaux, le gouverneur, le duc d'Épernon, qui déteste Richelieu, et qui est porté à donner raison aux croquants. C'est-à-dire que quand vous envoyez 1500 hommes de cavalerie venus du Pays basque contre 2000 croquants, les 1500 hommes de cavalerie tuent 200 ou 300 hommes sur le terrain, et les autres se dispersent, ils s'en vont. Hein.
Oui.
Mais 5 jours, 10 jours plus tard, le Parlement de Bordeaux publie une grâce générale, avec l'accord du roi, bien sûr, c'est prévu. Grâce générale, et d'où on exclut un certain nombre de personnages qu'on a repérés, mais qui disparaissent.
Eh bien, Yves-Marie Berset, malheureusement, nous arrivons au terme de cette discussion autour de ces 2 chapitres que vous avez écrits dans cette nouvelle Histoire de France aux éditions Passé Composé. Nous avons passé du temps sur le premier chapitre qui est passionnant, mais le deuxième chapitre aussi est passionnant. Pouvoir royal au temps moderne. Vous nous avez expliqué aussi, durant ces temps modernes, l'importance de la politique fiscale et les révoltes face à l'injustice de la taille qui frappait trop durement justement les paysans, et vous nous avez fait découvrir le rôle bienfaisant de Colbert en la matière que nous ne connaissions
pas. Attendez, est-ce que je peux ajouter juste un petit
bien
mot ?
Bien sûr.
C'est que l'importance des révoltes paysannes avait été comprise par un historien soviétique, Boris Porchnev, parce que la correspondance de Séguier, chancelier de la justice, avait été emportée à Saint-Pétersbourg. Et Porchnev a fait une énorme thèse où il voulait montrer que ces révoltes paysannes étaient l'annonce de la Révolution française. Alors que pas du tout, elles ne mettent pas du tout en cause le pouvoir royal, elles mettent en cause uniquement la fiscalité, quelque chose qui va disparaître au XVIIIe siècle.
Merci pour cette précision, Yves-Marie Berset. Les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent vous retrouver dans la Nouvelle Histoire de France aux éditions Passé Composé. Nous nous demandent, est-ce que vous allez signer quelque part en librairie sur cet ouvrage?
Non, c'est collectif.
C'est collectif, exactement, c'est la réponse. En tout cas, merci beaucoup à vous, Yves-Marie Berset, et j'espère que nous aurons le plaisir de vous recevoir autour du destin des enfants prodiges. À très bientôt, donc.